Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc aujourd'hui la ministre des Armées, Florence Parly.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Bonjour Florence Parly.
Bonjour.
Dans 2h30 environ, vous serez aux côtés du président pour la commémoration du 8 mai, on va en parler. Mais je voudrais évoquer d'abord un rendez-vous aussi extrêmement important et redouté. C'est ce soir, 20h, Donald Trump, président américain, va faire connaître sa décision sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Sauf revirement surprise, il pourrait jeter cet accord à la poubelle. Si ça se confirme, Florence Parly, c'est une décision grave, voire irresponsable.
Alors, cet accord, il faut quand même le rappeler, c'est un accord qui a permis de suspendre le programme militaire nucléaire iranien. C'est très important parce que c'est un facteur de paix et de stabilisation dans une région qui est, comme vous le savez, très éruptive. Cet accord, ce n'est pas le meilleur accord du monde et le président de la République, lors de son déplacement à Washington, a eu l'occasion de le dire et de le redire au président Trump.
Ça a pris beaucoup de place d'ailleurs
dans ce voyage aux États-Unis. Ça a pris beaucoup de place dans ces entretiens, absolument. Oui. Et sans être parfait, il a néanmoins un certain nombre de vertus. La première, c'est celle que je viens de rappeler, c'est de suspendre un programme nucléaire qui était parti pour ne pas être pacifique. La seconde, c'est aussi de permettre une vérification régulière, extrêmement exigeante, de la part de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur ce que font les Iraniens. Est-ce qu'ils respectent l'accord ou pas ? Ils le respectent. Bien. Mais cependant, cet accord doit être complété, c'est ce que le président de la République a proposé.
Il a plaidé. Semble-t-il, d'ailleurs, Emmanuel Macron est assez pessimiste, vous dites, c'est un accord imparfait, mais qui est quand même un facteur de déstabilisation. S'il est remis en cause, s'il est caduque parce que Trump se retire, est-ce que la région, de facto, risque d'être déstabilisée?
Pour l'instant, d'abord, il ne faut pas préjuger d'une décision que nous ne connaissons pas.
Vous êtes optimiste?
Je ne fais aucun pronostic. Je pense que le président Trump a en effet pris sa décision, mais nous ne la connaissons pas. Et je pense aussi qu'il faudra poursuivre sans cesse pour plaider à l'amélioration de cet accord, oui. Que les États-Unis y soient présents ou pas.
Oui. Vous espérez que les Européens pourront maintenir l'accord malgré le retrait des Américains? Tout le monde dit qu'il n'existera pas une fois que les États-Unis en seront retirés.
Les Européens ont confirmé encore tout récemment leur attachement maintien et au respect de cet accord.
Ça va être ça la ligne des Européens, faire en sorte que cet accord puisse survivre malgré ça, malgré le retrait américain.
Elisabeth Martichoux, la ligne des Européens, elle se déterminera aussi en fonction d'une décision que nous ne connaissons pas.
Mais en tout cas, si vous me permettez, Emmanuel Macron, voilà ce qu'il en pense. Il est cité par le magazine Spiegel, édition de dimanche dernier. Le pire des scénarios serait que Trump sorte du deal. Nous ouvririons la boîte de Pandore. Il pourrait y avoir une guerre. Fin de citation. Une guerre entre qui et qui ?
Et c'est pour ça, Madame Martichoux, que le président de la République a tellement plaidé vis-à-vis de Donald Trump lors de son déplacement à Washington pour que cet accord soit maintenu.
Une guerre entre qui et qui au cas où, Florence Parly. Dites-nous ce à quoi il faut s'attendre. Quel est le risque d'escalade dans la région du Moyen-Orient à nouveau déstabilisée? Une guerre entre l'Iran et Israël?
Le risque d'escalade, nous le connaissons bien. L'Iran est une puissance qui cherche à exercer son influence plus largement au-delà de la région. C'est la raison pour laquelle elle est impliquée en Syrie, qu'elle soutient le régime syrien de Bachar el-Assad, que la proximité de l'Iran est un problème pour Israël. D'ailleurs, ceci a conduit Israël récemment à intervenir militairement pour frapper un certain nombre de cibles en Syrie. Donc, on voit bien que toute escalade qui concerne l'Iran et qui pourrait conduire l'Iran à ne plus respecter un accord qui a été signé, y compris par les États-Unis il y a quelques années, ne peut être qu'un facteur d'aggravation d'une situation déjà très tendue.
Alors, et toute déstabilisation supplémentaire dans la région a possiblement des retombées directes physiques sur l'Europe, on l'a vu dans un passé récent. C'est un sujet d'inquiétude, évidemment.
C'est un sujet d'inquiétude majeure, puisque ce Moyen-Orient est aussi une zone dans laquelle la lutte contre le terrorisme doit s'exercer. C'est de Raqqa, je ne rappellerai jamais assez que les attentats du Bataclan ont été préparés. Donc, il est essentiel pour nous de pouvoir aller au bout de cette lutte contre le terrorisme dans laquelle la France est évidemment très fortement impliquée, que ce soit au Levant ou au Sahel.
Alors, la France a lancé il y a plus de 3 semaines maintenant des frappes en Syrie avec les Américains et les Britanniques. S'il devait y avoir d'autres attaques chimiques au chlore ou autres produits du fait de Bachar el-Assad, est-ce que la France taperait à nouveau ?
Cette frappe que nous avons réalisée le 14 avril est une frappe qui est un avertissement. Oui. Lorsque les lignes rouges sont franchies, il y a une réaction. On ne peut pas laisser passer une attaque chimique. L'arme chimique, c'est l'arme taboue, c'est l'arme contre laquelle il faut absolument se battre. Par conséquent, l'objectif est que Bachar el-Assad ne réitère pas de pareilles attaques chimiques. Si ça devait être le cas, eh bien, nous pourrions envisager naturellement de recommencer.
Ce serait logique, le but étant de prévenir de nouveaux crimes de cette nature de Bachar el-Assad. S'il devait recommencer, les frappes seraient à nouveau au programme côté français. Les cibles ont été atteintes, Florence Parly, mission accomplie, mais 2 frégates sur 3 déployées pour cette opération n'ont pas pu tirer. C'est un peu technique, mais c'est la frégate de réserve en fait qui aurait lancé les missiles. Il y a une enquête pour comprendre ce qui s'est passé.
Je n'ai pas l'habitude de commenter des informations qui concernent la défense nationale et qui sont couvertes par le secret.
Vous les démentez ?
Je n'ai pas l'habitude de commenter des informations qui sont classifiées, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses. Elles sont d'abord et avant toute chose classifiées. Et par ailleurs, je voudrais rappeler, ce qui est tout de même le sujet majeur, c'est que les cibles qui avaient été choisies ont toutes été atteintes. Et donc, je n'ai rien de plus à ajouter.
Mais rassurez-nous, s'il y avait dû y avoir un bug technique ou, je sais pas, un sabotage. Enfin, on ne sait pas d'où ça pourrait venir. Il y aurait une enquête en cours.
Je vous dis que toutes les cibles ont été atteintes. Donc, tout le reste n'est que spéculation.
Voilà, ça s'appelle rester muette. En France, Florence Parly, on a l'impression de voir moins de militaires dans les rues. Est-ce que Sentinelle mobilise toujours 7000 militaires ?
Tout à fait. Sentinelle mobilise 7000 militaires et depuis 2015, c'est-à-dire le moment où Sentinelle a été créé en réponse aux attentats qui ont eu lieu à Paris et à Saint-Denis, le dispositif a profondément évolué. Le nombre de militaires, lui, est resté stable, mais c'est la manière d'employer ces militaires qui a changé.
Donc il n'y a numériquement aucune évolution, c'est le même nombre, et vous maintenez le dispositif.
Nous maintenons le dispositif, en revanche, tant que ce sera nécessaire, et en revanche, il n'y a plus aucune garde statique. C'est un dispositif qui est très mobile et l'objectif est que l'itinéraire de nos militaires soit tout à fait aléatoire et imprévisible, de sorte que eux-mêmes ne soient pas des cibles pour d'éventuels terroristes.
Alors, le service national universel, le rapport du groupe de travail a fuité, Florence Parly, ce serait un mois obligatoire, davantage sur la base du volontariat si les jeunes le souhaitent. Verdict présidentiel à la fin du mois, c'est ça, attendu, à la fin du mois ?
Des premières décisions seront probablement annoncées dans quelques semaines.
Bon, l'équation compliquée, ça reste le financement. 600 000 jeunes encadrés, logés, formés pendant 3 jours, donc obligatoires, ça coûte plusieurs milliards. Pardon. Est-ce que le budget de l'armée sera impacté ?
Alors, le président de la République a été très clair dès ses vœux aux armées au mois de janvier. Il a indiqué que ce service national universel ferait l'objet d'un financement ad hoc, spécifique, et ne viendrait donc pas réduire les moyens qui sont actuellement consentis aux armées dans le cadre de la prochaine loi de programmation militaire qui est en cours de discussion en ce moment et qui prévoit un investissement historiquement élevé en faveur de nos armées, puisque c'est près de 300 milliards d'euros qui seront investis d'ici 2025.
Ça, c'est pour la loi de programmation
Il n'y aura pas d'impact sur ces 300 milliards
est-ce
d'euros.
Est-ce que l'armée va encadrer les jeunes ? Et si oui, est-ce que vous allez faire appel à des officiers de réserve ? Comment ça va se passer ?
Nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, les contours de ce dispositif ne sont pas encore connus. Ce qui irrigue la presse à l'heure actuelle, et c'est une excellente chose, ce sont des propositions qui ont été faites, d'ailleurs par différentes personnes.
Est-ce que potentiellement l'armée va être amenée à encadrer ces jeunes? Oui, est-ce que c'est une hypothèse? Est-ce que vous y êtes favorable?
C'est un service national dont l'armée devra effectivement s'occuper. Ce n'est pas un service militaire, mais c'est un service national dont pour lequel je compte bien que les militaires puissent y apporter une contribution. Mais cette contribution, elle n'est pas définie et nous allons en parler dans les prochaines semaines.
Par parenthèse, parce que c'est vrai que ce sont des images qu'on a tous en tête, est-ce que les gendarmes, les militaires iront chercher les récalcitrants comme ils allaient chercher ceux qui refusaient d'aller à l'armée?
Mais comme ce n'est pas un service militaire, je pense que la réponse à cette question sera différente.
Bon, donc pas de gendarmes pour aller chercher les jeunes qui ne voudraient pas passer leur mois de service national. La volonté politique du président, qui sans doute indispensable à un projet de cette nature, à votre avis, est pleine et entière?
Absolument. C'est un projet qu'il porte depuis le début de son quinquennat. C'était d'ailleurs une promesse de campagne. Et c'est un projet qui se réalisera.
À propos des armées, un mot de son chef, Emmanuel Macron, qui fait un an de mandat, Florence Parly. Dans le documentaire diffusé hier, signé Bertrand Delay, qui était reçu hier matin d'ailleurs par Yves Calvi ici, Emmanuel Macron explique, en se référant au sacrifice du soldat Beltrame, qu'il y a des combats plus intéressants, c'est-à-dire la défense de la patrie en l'occurrence, que un combat pour la défense de 50 euros d'APL. Est-ce que pour vous, faire cette comparaison, c'est de la maladresse? C'est un manque de sens politique? Ou c'est un sentiment de surpuissance qui fait dire ça au président? Une phrase qui choque beaucoup.
Je pense que ce documentaire, qui fait plus de 30 secondes, puisqu'il se déroule sur plus de 60 minutes, 90 minutes exactement, mérite mieux que ce commentaire lapidaire.
Sans doute, mais cette phrase-là a choqué Florence Parly. On ne peut pas en faire l'économie, le passer sous silence. Est-ce que pour vous, à ce moment-là, le président se fait plus intellectuel que politique, dans le fond?
Je crois que le président, au cours de cette émission, a longuement remis en perspective et fait la pédagogie de l'action qu'il mène depuis un an. Et cette action, elle se caractérise par deux manières. D'une part, la relance de l'économie française, et c'est une relance structurelle qui portera ses fruits dans la durée. Et d'autre part, le fait que la France retrouve sa place au centre du jeu international.
Petite polémique.
Et donc je pense que c'est une petite polémique et que ceci n'est pas l'important. L'important, c'est que nous poursuivions dans les réformes et la transformation du pays.
Mais là, cette
et que par ailleurs, les Français puissent retrouver une fierté de l'action qui est menée par notre pays sur la scène internationale.
Merci Florence Parly d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Sur l'accord nucléaire menacé par Donald Trump, cet accord a permis de suspendre le programme nucléaire iranien. Il n'est pas parfait, mais nous devons tout faire pour le préserver. Et puis on a compris qu'il n'y aurait pas d'insoumis au projet de service universel, puisqu'il ne sera pas à caractère militaire. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à Florence Parly et à Elisabeth Martichoux.